écoutez Ainsi soit-elle. Les ondes de CKIA FM, vous écoutez Ainsi soit-elle, votre magazine féministe et libertaire préféré. C'est Tiffany derrière le micro et je suis en compagnie de Marie. On attend Hélène un peu plus tard aussi. Donc, ce soir, on va vous parler un petit peu d'initiative qui est menée en ce moment par des femmes Innues. Ensuite, on vous parlera de la manif qu'il y a eu samedi dernier à Alma en appui aux travailleurs et travailleuses. Des travailleuses là-dedans aussi, de l'Alcan. Et puis, on va aussi faire un début de retour sur la dernière soirée des mercredis agités qui portait sur la post-porn. Et puis, le tout va être rythmé par la musique de NECA, dont tu vas nous parler un peu plus, Marie?
Oui, ben j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va l'écouter, mais pour vous dire, c'est une artiste chanteuse à découvrir. Je vous invite à écouter d'abord une chanson qui s'appelle Sleep et c'est en collaboration avec Miss Dynamite. We'll be right back.
êtes toujours à l'écoute d'Ainsi Squat-elle sur les ondes de CKIA FM 88,3. Donc, on vient d'entendre NECA et puis on enchaîne tout de suite avec des petites nouvelles. Ça a retenu mon attention aujourd'hui, surtout parce que à l'automne dernier, j'ai eu la chance de participer à la caravane du Frappru qui nous a amené jusqu'à cette île où on a rencontré des femmes et des hommes du Centre d'amitié autochtone qui venaient des réserves de Ouachat et Malio-Tenam, ces deux communautés qui sont vraiment comme sur le même territoire que cette île. Et puis, il y a des femmes de Malio-Tenam qui sont parties en fin de semaine à la marche à partir de Malio-Tenam, donc qui est au même endroit que cette île, si ça vous place un petit peu mieux sur une carte du Québec, et qui s'en vont en direction de Montréal. Elles font ça suite à un blocage de route qui a été récemment démantelé, qui avait été mis sur pied par des membres de la communauté de Malio-Tenam pour s'opposer au plan Nord qui n'annonce absolument rien de bon pour les communautés autochtones puis les communautés des Premières Nations au Québec. C'est pas les seuls qui forment une opposition au gouvernement Charest sur ce plan-là, qui promet beaucoup aux minières et aux grandes compagnies, à Hydro-Québec, mais qui laisse vraiment rien présager de bon pour les communautés locales, particulièrement les gens des Premières Nations qui ont déjà des conditions de vie difficiles, puis tout particulièrement des conditions de logement. Quand on était à cette île, à l'automne dernier, on a rencontré des personnes qui avaient tellement de difficultés à se loger parce que, alors que le marché est déjà extrêmement serré avec des taux d'inoccupation là, qui frisent les 0%, les gens arrivent en grand nombre pour travailler sur des chantiers, travailler à la romaine par exemple, s'installent dans les communautés et peuvent se permettre de payer des loyers élevés. Ça fait monter les prix parce que les propriétaires ont le beau jeu de se laisser aller puis d'augmenter les prix des loyers de façon absolument peu responsable, ou je sais pas quel terme utiliser, je trouve ça tellement inadmissible comme situation. En plus, on avait à ce moment-là parlé, par exemple, à une femme du Centre d'amitié autochtone qui nous racontait que elle avait pas accès à un HLM parce qu'elle était revenue de Montréal trop récemment. On le sait, il faut rester au moins un an sur un territoire d'une ville donnée pour avoir accès aux services des offices municipaux d'habitation. Et puis, donc, elle se trouvait dans une drôle de situation où elle pouvait ni habiter sur la réserve, ni habiter hors réserve parce qu'il y avait pas de, il y avait plus d'immeubles de disponibles, même si elle avait eu les 1 500 à 2 000 $ pour payer son loyer qui était demandé à certains endroits. Il y a plus de place. Donc, c'est pour se battre contre ce genre de situation-là que les femmes de Malio-Tenam, donc, sont parties. Pour l'instant, je crois qu'elles sont une quarantaine et il y a d'autres personnes de d'autres communautés qui vont se joindre à elles pendant le trajet. Et puis, elles sont donc en direction de Montréal où elles comptent arriver pour le 22 avril, qui est le jour de la Terre. Puis, cette année, on sait que ça sera pas seulement ça, là. Les gens qui sont d'habitude responsables de l'organisation de ce jour-là se sont joints une coalition qui lance un appel là, pour une très large mobilisation citoyenne. Donc, on pourra vous reparler probablement lors de notre prochaine émission, là, mais je sais qu'il y a déjà des autobus qui sont organisés à partir de Québec pour se rendre à cette manifestation nationale qui va avoir lieu puis qui va évidemment souligner l'importance des enjeux environnementaux, entre autres dans le cadre du développement du plan Nord, mais aussi avoir un message un peu plus large là, que d'habitude avec une portée sociale. Donc, voilà, c'est quand même un projet super ambitieux que ces femmes-là ont entrepris et puis on va les suivre, puis on reviendra là-dessus quand on reviendra en onde dans 14 jours, voir où elles en sont dans leur périple. Elles vont probablement s'être beaucoup rapprochées de Montréal. Elles prévoient faire de 40 à 70 km par jour. Fait que on leur souhaite vraiment un bon succès, puis on est en solidarité avec elles. Mm-mm.
Ouais, merci beaucoup Tiffaine pour cette chronique puis pour cette annonce. Moi, ça me fait penser quand tu parles des logements comme ça puis de l'augmentation du prix des loyers, ça me fait penser à quelque chose qu'on a pu constater aussi dans un autre pays là. Je vais pas rester au Canada, mais en Haïti, suite au séisme, il y a eu beaucoup de personnes humanitaires ou autres qui ont vraiment envahi Port-au-Prince et suite à ça, il y a eu une augmentation mais vraiment impressionnante des loyers et du coût de la vie en général à Port-au-Prince qui qui fait que les gens qui avaient l'habitude de se loger à Port-au-Prince ou qui avaient l'habitude d'aller manger au restaurant, bah au restaurant on s'entend, c'est des repas qui sont vraiment pas chers, mais qui avaient l'habitude d'aller manger là tous les midis, mais ils sont plus capables maintenant parce qu'il y a vraiment eu une augmentation intense là. Donc on constate que là, quand tu parlais de cette île, puis justement des gens de l'extérieur qui viennent travailler là, on voit l'effet que ça peut avoir à long terme aussi. Là, c'est pas juste de venir aider, mais ça change vraiment considérablement le mode de vie des gens qui habitent là depuis longtemps. Là.
C'est clair, même quand les nouveaux arrivants, puis les nouvelles arrivantes arrivent plein de bonnes intentions. C'était la même chose à la Nouvelle-Orléans où j'habitais. Le coût des loyers, particulièrement quand il y a un désastre qui coupe d'un coup là une grande partie des logements disponibles, c'est assez hallucinant à quel point une crise du logement est vite arrivée, puis le coût de la vie augmente.
Ouais, puis je pense que à la Nouvelle-Orléans, c'était en plus, c'était quasi volontaire là, c'était des politiques d'exclusion qui avaient été faites pour justement rendre les loyers plus chers pour que les pauvres viennent moins y habiter là. Clairement, c'est comment on nettoie la ville de ces pauvres et des gens à faible revenu en augmentant les loyers. C'était clairement inscrit dans les politiques là pour la Nouvelle-Orléans.
Oui, ben c'est allé de pair avec des fermetures massives des logements sociaux qui étaient existants et qui étaient encore en bon état là, C'est clair que les problèmes de logement, il y en a partout. On n'a pas besoin d'y chercher trop loin. Là.
Non, c'est ça. Puis ben, sans logement, c'est tout le reste est plus difficile. Donc on soutient, on revient à notre thème de départ, mais on soutient la cause des femmes Innu qui vont marcher là jusqu'à Montréal. Et puis on part en musique pour réfléchir à tout ça avec toujours une chanson de Neka. La chanson s'appelle Vagabonds in Power.
Touch on me so, as if they break my heart, as if they do the thing we could do to me, they do me, as if they rip my pride and dignity away, as if they make me this suffer, as if they make me this suffer. You never tell me that you don't know what you could do to me. You never tell me that you don't know what you could do to me. You they kill, you they steal. They kill you. They make my begin to suffer. You they make my Monday suffer head, suffer head. Now you reach Monday game. You never tell me say you don't know what you did to me. You never tell me say you don't know what you did to me. Vagabond in power, vagabond in power, vagabond in power. Vagabond in power, vagabond in power, vagabond in power, yeah, yeah. As you they touch on me so, as you they break my heart, as you they do the thing where you did to me, as you they rip my pride and dignity away, as you they make me they sweat so, as you they make me they suffer. You never tell me that you don't know what you did to me. Power, vagabond in power,
êtes toujours sur les ondes de CKIA FM à l'émission Ainsi Squat-elle et youpi, Hélène vient d'arriver. Salut Hélène. Moi, je voulais vous parler un peu de Neke, l'artiste qu'on entend là depuis tantôt. C'est une artiste que j'ai découvert il y a pas longtemps et je suis allée voir en concert à Montréal il y a 10 jours à peu près au cabaret du Myland. C'était vraiment excellent. C'est une artiste qui est originaire du Nigeria. Qui a beaucoup voyagé et qui mélange vraiment beaucoup les styles de musique. Là, elle va dans le reggae, soul, hip-hop. Elle était plus soul au début dans son premier album, puis là elle vire plus vers le reggae, hip-hop, donc moi ça m'inspire plus. Et elle a des textes vraiment intéressants. En fait, autant elle a des textes introspectifs là où elle parle plus de sentiments, d'affectifs et tout ça, et autant elle a des textes très très engagés et puis très très politiques. Là, le dernier morceau qu'on vient d'entendre, Vagabonds in Power, que j'aime beaucoup, donc pouvoir aux vagabonds ou vagabonds au pouvoir, on aime ça, cette idée-là. Et puis finalement, elle reprend beaucoup pour parler de politique. Elle va parler du Nigeria, mais elle va aussi développer plus loin, parce que le Nigeria, on sait que c'est un pays où il y a, par exemple, d'énormes ressources pétrolières, et puis qu'il y a des manques d'essence pour la population locale, par exemple. Donc une aberration qu'on peut voir suite au développement faramineux des politiques néolibérales au Nigeria, mais dans beaucoup beaucoup de pays. Et puis c'est ça, donc je vous invite à aller voir un peu tout ça, puisque finalement elle va reprendre des discours que Fela Kuti par exemple a pu faire il y a quelques décennies déjà. Donc c'est toujours d'actualité et puis ça a toujours besoin d'être dit apparemment. Donc voilà, je vous invite à aller écouter sur son site, il y a quelques démos. C'est Neka, donc ça s'écrit N-N-E-K-A World, donc world.com. Et puis Neka, ça s'écrit N'N, donc c'est pour ça que ça se dit Neka de cette façon-là. Et puis, je vous invite à aller l'écouter. Elle a 3 albums jusqu'à présent. Et puis, elle est vraiment, vraiment intéressante. Mais c'est ça, je ne vais pas en parler plus parce que finalement, il faut l'écouter. Là, on va entendre une chanson qui s'appelle Burning Bush. Donc, bonne écoute!
You cannot compare anything to Google.
les ondes de CKIA FM, vous écoutez Sisquatel, votre magazine féministe et libertaire préféré. Je vous avais annoncé un petit retour sur la dernière soirée des mercredis agités qui a eu lieu mercredi dernier sur le sujet de la post-pornographie féministe.
Qu'est-ce que c'est la post-pornographie féministe?
Eh bien, je vais vous faire languir encore 14 jours entiers parce qu'on va reparler du contenu de l'atelier de lui-même lors de la prochaine émission avec Evelyne qui sera présente et qui était là la semaine dernière. Donc, on aura l'occasion de rediscuter vraiment du contenu de cet atelier-là, en présentation et discussion-là, en tout cas, qui était animé par Julie Châteauvert, qui est une militante de Montréal. Puis, c'était fort intéressant. Elle avait plein de trucs vraiment super cool à nous présenter, entre autres plusieurs vidéos. Moi, je l'ai trouvé super agréable et sympathique. Puis, elle avait nous a proposé, donc, je pense qu'elle est arrivée là avec une impression qu'elle était en terrain safe. Elle a agité en se disant, on est entre personnes qui ont des affinités politiques, ça va nous donner l'occasion d'avoir des bonnes discussions, de se poser des questions, de réfléchir à ce que ça peut vouloir dire de la porno féministe, aux limites que ça peut avoir, tout ça. Puis j'ai l'impression qu'elle est arrivée là avec beaucoup d'attentes, elle aussi, comme probablement plusieurs personnes qui étaient présentes dans la salle. Puis elle avait quand même fait quelques avertissements sur la façon de discuter, parce que, comme on le sait, le sexe en général, la pornographie, le travail du sexe, la prostitution en particulier, ça soulève les passions.
C'est controversé.
C'est controversé, puis c'est des thèmes qui amènent souvent à des discussions moyennement productives, parce que toujours en mode confrontation. Et puis donc, elle nous avait fait un petit avertissement à ce sujet-là en disant, tu sais, c'est important. Puis je trouvais que c'était intéressant justement parce qu'elle avait des façons de parler de ce mode de discussion-là un petit peu différent de ce que j'avais entendu d'habitude en parlant, par exemple, de discussion avec une switch on-off. Donc, tu sais, de toujours aller de, tu sais, oui, non, oui, non, oui, non, puis que ça finalement, ça mène nulle part.
C'est contre-productif.
Puis, ouais. Puis de plutôt essayer de réfléchir à nos conversations en termes de pôle, puis de où on... c'est vers quoi on tendait plutôt qu'en termes d'opposition les uns les unes envers les autres. Donc, elle nous a invités à réfléchir à ça quand on allait intervenir, puis elle nous a averti qu'elle allait ramener ça là, si les discussions dérivaient. Mais quand même, je pense que tout le monde commençait avec la motivation et des grands espoirs pour la soirée. Et puis, à mon sens, ça a un petit peu mal tourné, malheureusement. Tu sais, je pense que moi aussi, j'avais l'impression qu'on était en terrain... je dirais safe, là, mais en fait, on était dans un bon endroit pour discuter d'un sujet comme ça. Puis finalement, la conversation... Après qu'elle ait fait sa première présentation initiale, tout ça... tout de suite là, on a eu des questions genre pourquoi il y a pas d'hommes qui peuvent être réalisateurs de porno féministe, mettons. Qui est pas nécessairement une question qui est pas bonne ou qui est mauvaise, mais quand elle est posée de façon vraiment déjà confrontante, c'est problématique. Puis là finalement elle a été comme, en tout cas, elle a esquivé la question en disant attendez un peu, on va en reparler tout ça. Finalement la personne qui avait posé la question tu sais partie, c'est ça comme parti un peu bizarre. Et là, quand les discussions ont vraiment commencé, tout ce que j'avais en tête, c'était... Je me rappelais d'avoir lu un texte sur la langue macho. Je pense qu'on en avait peut-être parlé, d'ailleurs, à Squatel. Mm-hmm. Puis là, je voyais tellement d'exemples qui ressortaient, là, entre autres, déjà, le fait que c'était presque uniquement des hommes qui parlaient. Et puis quand une femme est intervenue pour dire qu'elle se sentait mal à l'aise... Dans cette dynamique-là, puis qu'elle trouvait que les femmes parlaient pas beaucoup, puis elle avait l'impression que c'était parce que le malaise était partagé par d'autres, elle s'est quasiment fait huer. Je capotais. Fait que bref, je me suis dit, ça serait peut-être pas de trop de revoir c'est quoi un peu les concepts de langue macho, puis en mettant l'accent sur les comportements qui étaient vraiment les plus problématiques. C'est vraiment poche parce que ça nous a empêché d'avoir une conversation intéressante sur un sujet intéressant qui est, oui, difficile, mais en même temps qui peut amener, tu sais, qui peut être super trippant. Puis là, finalement, on s'est retrouvés à perdre énormément de temps, à mon sens, à entendre les opinions de personnes qui connaissaient mal le sujet puis qui voulaient pas arrêter de répéter leurs opinions qui n'étaient pas nécessairement informées par des recherches ou même juste de l'écoute de vidéos porno féministes.
Comme sur des préjugés, sur leur...
C'est ça, puis tu sais, qui reprenait constamment la parole, puis il n'y avait jamais de temps mort pour pouvoir intervenir. Quand, en tout cas, ça a été un petit peu pénible, je trouvais. Donc, je vous propose à toutes et à tous de revisiter le texte qui s'appelle « La langue macho » qui est disponible sur plusieurs sites web, là, entre autres sur le site d'Indymédia Québec, là, le CEMAC. CMAQ.net. Puis ça, c'est un texte qui a été traduit par le groupe qui s'appelle Hommes contre le patriarcat, mais qui partait d'un texte qui avait été initialement écrit en anglais, qui s'appelait Overcoming Masculine Oppression in Mixed Groups, puis dont la première version est sortie à la fin des années 70, puis a été rédigée par des militants de la région de Philadelphie. Donc, c'est un texte qui a été fait par des hommes qui se faisaient la réflexion que certains comportements qui étaient typiquement masculins dans les conversations étaient nuisibles pour les dynamiques de groupe, puis permettaient pas à un groupe d'avancer comme il faut. Je me rends compte que j'ai parlé pas mal. Peut-être qu'on peut mettre une chanson de Neka pour...
Oui, on peut tout à fait. Et puis, tu nous parleras précisément de la langue macho après, c'est
voilà.
Ça?
Voilà.
OK. On s'en va écouter Neka, toujours, hein, l'artiste du soir. J'ai décidé de passer juste de ses musiques ce soir. Ouais, c'est le monopole de Neka ce soir. Et on écoute une chanson qui s'appelle « Camouflage ».
Every day is a struggle. Every night in my pain.
Vous écoutez toujours Ainsi soit-elle sur les ondes de CKIA FM. Et puis, j'ai discuté il y a quelques minutes de la langue macho qui a été un peu trop mise de l'avant à mon goût à l'AGT mercredi dernier. Donc, juste pour faire un petit rappel, là, je parlais du texte où je m'apprêtais à parler du texte qui a été traduit par Les hommes contre le patriarcat, qui c'est une espèce de document là, vraiment de réflexion avec différents types de comportements ou de façons de prendre la parole qui sont identifiés. Juste pour vous parler...
Comme si, par exemple, là, je te coupais la parole.
Comme si, par exemple, je reprenais Marie en disant... Ce qu'elle veut vraiment dire, c'est...
Non, mais là, t'as pas rapport, là.
C'est à peu près ça, genre.
Okay.
Donc, c'est ça, il y a plein de comportements différents. J'en souligne quelques-uns qui m'ont fait fâcher récemment. Premièrement, monopoliser le crachoir. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est parler trop fort, parler trop souvent. Puis c'est... L'emblème de ça, c'est de croire qu'il faut pas garder une seule seconde de silence quand quelqu'un finit sa phrase, t'sais. Fait que dès qu'il y a un moment, là, hop, il faut combler le vide parce que sinon, on sait pas ce qui va arriver, là, mais ça risque d'être grave. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui empêche les gens de parler, les autres personnes qui ont pas tendance à prendre la parole à tout instant. On le voit souvent quand on laisse quelques secondes. Ça a pas besoin d'être si long que ça. Premièrement, des fois, avoir du silence, ça fait du bien, surtout dans des discussions tendues ou difficiles. Ça a pas besoin d'être long. Des fois, c'est juste deux secondes que ça prend avant que quelqu'un sente que, OK, il y a vraiment personne qui parle, je coupe pas la parole à personne, puis se sente à l'aise de prendre la parole. Donc ça, vraiment, un point qui me semble fort important. Ensuite, l'attitude défensive. Répondre à tout ce qui est dit comme si c'était des attaques personnelles, puis sur des sujets qui sont... tabou difficile, entre autres la pornographie dont on parlait tout à l'heure, ben c'est tout à fait le genre de choses qui ressort de façon assez forte. Mais peut-être pas autant que le comportement suivant, couper les cheveux en quatre. Fait que là, s'enligner sur des débats, sur les détails de « oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? » Puis tel terme, comment c'est utilisé, puis tout ça.
L'étymologie des mots, genre.
Par exemple, ou tu sais, des affaires, des trucs super précis qui peuvent être super intéressants quand on est dans un petit groupe puis que c'est un sujet qu'on connaît bien ou quand on se lâche loose dans un petit groupe puis on a des conversations des fois qui mènent à rien puis c'est correct, tu sais, tout le monde le fait, mais quand on est dans un grand groupe où il y a un objectif commun d'essayer d'apprendre, c'est pas nécessairement le moment. Il faut se poser la question de quel genre de débat vraiment détaillé on veut amener dans l'espace de discussion. Ou en tout cas, je crois que c'est important de se poser la question. Donc, ça, c'était des comportements qu'on a beaucoup reconnus la semaine dernière, à mon sens. Aussi, le négativisme. Il y a beaucoup, beaucoup, là, il y en a beaucoup, beaucoup que je passe, puis ça vaut la peine d'aller lire ce texte-là au complet. Mais le négativisme, c'était un autre comportement qui est ressorti pas mal. Trouver tout le temps quelque chose de problématique à propos du sujet. Donc, revenir forcément, tu sais, dès le début de la discussion, oui, mais c'est quoi les limites de la porno féministe? Oui, mais c'est quoi le problème? Tu sais, puis là, s'il n'y a pas d'hommes qui en font, c'est sexiste. Puis tout ce qui était énoncé, ça devenait rapidement un problème à dénoncer. Donc, c'est ça, c'est seulement quelques-uns des comportements là qui sont qui ont été identifiés, comme je le disais, d'abord par un groupe d'activistes qui s'était penché sur la question à la fin des années 70, puis qui a été traduit vers le français par les hommes contre le patriarcat. C'est disponible sur plusieurs sites web, là, c'est facile à trouver en googlant la langue macho. Juste pour, en tout cas, j'ai trouvé ça tellement triste et tellement ironique que à la fin de cet article-là sur le site d'Indymedia Québec, il y avait donc une section commentaire qui était ouverte. Je commence à lire. C'était tellement une mauvaise idée. Aujourd'hui, j'ai fait ça plusieurs fois.
Masochisme.
J'ai fait ça plusieurs fois et c'était vraiment des mauvaises idées. Là, je commence à regarder un peu, puis tu sais, une couple de... Bon, évidemment, premier commentaire super négatif, puis là, une couple de réponses. Puis là, à un moment donné, ben, j'avais pas toute la journée, fait que je déroule, je regardais en diagonale et je voyais que c'était des hommes et des hommes. Puis là, finalement, j'ai pas tout lu, mais rapidement, j'ai fait un copier-coller dans un document Word pour me donner une idée de l'ampleur des débats et des dégâts. Et il y avait pas moins de 11 000 mots, soit l'équivalent d'environ 35 pages de commentaires qui, je crois, étaient tous signés par des hommes et étaient pour la plupart très battes, si vous m'excusez l'expression. Donc voilà, je me disais, crime, des gars qui s'ostinent en se pilant les uns par-dessus les autres pour vérifier si c'est pertinent ou pas d'avoir un questionnement sur la langue macho. Qui est d'ailleurs un texte qui était écrit par des hommes, tu sais, qui ont fait la réflexion, puis là, ils sont en train de blaster les féministes, puis les lesbiennes, puis les ci, puis les ça. C'est... Mais tu sais, ils sont full intense sur leur haine du féminisme, alors qu'ils lisent un texte écrit par des hommes qui se posent des questions
mais
sur des comportements.
Mais ce sont des traîtres, ces hommes-là.
Voilà, même s'ils précisent que les comportements macho, c'est pas juste les hommes qui les ont, c'est juste un trait plutôt masculin.
Ou alors c'est un signe de comment on arrive à parler sans savoir de quoi on parle aussi, puis que...
Voilà.
Genre, il faut forcément dire quelque chose sans aller creuser le fond du problème.
Mm-hmm. En tout cas, c'était une lecture fort intéressante et pour le moins frustrante. Puis, le texte original est aussi intéressant. Là, il y a quelques commentaires qui changent. Là, les différentes catégories sont les mêmes, mais il y a des commentaires qui sont pas tout à fait les mêmes dans le texte en français et en anglais. Et puis, dans ma recherche aussi, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs listes de lectures qui sont proposées là pour les hommes qui veulent faire un move et se poser des questions sur la langue macho, sur les comportements macho, sur comment devenir des vrais alliés pour la lutte féministe. Je vous encourage à regarder tout ça.
Merci. On va écouter Neke, puis une de ses chansons qu'on a peut-être le plus entendue quand on s'est intéressé à ça. La chanson s'appelle Africans.
Yeah. We are created in a beautiful way.
Abuse, I got.
Vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3. Vous écoutez l'émission Féministe et Libertaire ainsi squattait. C'est Hélène derrière le micro. Et j'ai envie de vous parler de mouvements sociaux parce que c'est le printemps québécois, le printemps des érables. Appelez ça comme vous voulez, mais ça bouge dans les villes de la province de Québec. D'abord, un mini squat à sortie. Je vais vous faire un retour sur ma sortie militante de samedi en famille. Je me suis rendue avec mes enfants et mon ami. Mes deux amis, en fait, Alex et Robin, à la grande manifestation de solidarité avec les travailleurs et les travailleuses de Rio Tinto à Alca. Donc, pour vous remettre en contexte, rappelez-vous, Rio Tinto, c'est le deuxième producteur mondial d'aluminium au monde. Donc, plusieurs compagnies un peu partout. C'est Rio Tinto, donc, a mis en lockout les travailleurs et travailleuses d'Alma le 31 décembre. Hein? Donc, bonne année! Ça avait choqué beaucoup les gens. Puis, il faut se mettre dans le contexte aussi que cette compagnie-là, donc, est à Alma, en région. Donc, si les travailleurs et les travailleuses sont en lockout, donc ont plus de salaire, même s'il y a un support de la part du syndicat, bien, c'est toute la région qui en souffre, c'est-à-dire que c'est les conjoints et les conjointes des travailleurs et des travailleuses, mais aussi, donc, s'ils sont en période de disette, bien, c'est des gens qui consomment moins, etc. Donc, toute la région s'en ressent. Sur les motifs du conflit de travail aussi, c'est important, c'est intéressant de voir que c'est pas tant sur la question des salaires et ou de la question de la retraite ou des conditions de travail, même si c'est des revendications très légitimes. Mais dans le cas de ce conflit-là, pourquoi il y a eu un mandat de grève qui n'a pas été exécuté finalement, puisque la compagnie a mis Rio Tinto a mis les travailleurs et les travailleuses en lockout? C'était vraiment sur la question de garder les emplois en région. Donc, c'était vraiment une perspective plus à long terme pour les générations qui suivaient. Et donc, voilà, ils sont en lockout depuis décembre et ça fait maintenant 2 mois que cette manifestation-là avait été organisée et l'objectif des organisateurs, c'était vraiment de réunir à travers le monde. C'était une manifestation qui se voulait internationale, donc de faire venir à Alma des travailleurs, des travailleuses de Rio Tinto, mais un peu partout dans le monde pour vraiment cibler la compagnie. Et ça a été dit, entre autres, en entrevue par une personne qui venait de l'Ouest canadien puis qui disait « cette lutte-là, elle est mondiale, l'exploiteur nous exploite un peu partout ». Ce qui est intéressant aussi, c'est la convergence qui a eu lieu, c'est-à-dire qu'il y a eu, il y avait le congrès de la Fédération internationale des ouvriers métallurgistes. Donc, c'est pourquoi on a pu voir pendant la manifestation des bannières des ouvriers métallos sud-africains, mexicains, américains. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Et aussi, autre convergence, le congrès de la classe, donc, avait lieu au lac Saint-Jean, ce qui a permis d'avoir un bon contingent étudiant, donc au moins 300 étudiants et étudiantes qui étaient là pour manifester leur appui et essayer. Puis c'est ce que je trouve, moi, vraiment intéressant dans ce qui se passe avec la lutte étudiante, c'est l'élargissement à la lutte sociale plus globale. On le voit d'ailleurs par les différents appuis, j'en parlerai dans quelques minutes, qui se font. Mais en ce sens-là, cette lutte-là, pour moi, est très prometteuse des réseaux, des contacts qui sont construits en ce moment et qui vont perdurer après la lutte, peu importe son issue. Donc, contingent étudiant, contingent libertaire, évidemment, dans lequel j'ai marché, qui avait été appelé par le collectif Emma Goldman, qui est un collectif de l'Union communiste libertaire qui est vraiment très actif au lac Saint-Jean. Ils avaient une belle bannière noire, une citation de Michel Chartrand, « Le capitalisme, c'est le marché des esclaves ». Et j'ai marché fièrement derrière cette bannière avec mes enfants en criant « Alma, Alma, ville de combat ». Donc, en tout cas, à suivre, parce qu'évidemment, 8000 personnes dans la rue, c'était un appui, je pense, qui a fait chaud au cœur aux travailleurs et aux travailleuses. Mais la suite reste à voir. Il y a des canaux quand même de négociation là, qui ont été mis de l'avant, donc ça sera certainement à suivre. Mais ça a été vraiment un grand succès, clairement, au niveau de la mobilisation. Et j'ai jamais entendu autant souvent dans une manifestation entendre le mot « classe ouvrière » et j'en étais fort contente parce que j'ai absolument aucun problème avec ce terme-là puisque, clairement, il y a des boss, puis on est de l'autre bord, fait qu'on va appeler un chat, puis une chatte. Toujours dans les mouvements sociaux, on continue avec la lutte, cette fois la lutte étudiante. Donc, on en parlait tout à l'heure pendant que la chanson jouait et ce serait vraiment un travail de titan de faire l'inventaire de toutes les actions qui ont lieu tous les jours dans les rues dans la province de Québec. Quand même envie de vous en glisser quelques-unes. Donc, rappelons-nous que la grève étudiante en est déjà à sa 7e semaine. Il y a un aspect un petit peu plus négatif qui se passe en ce moment, c'est que les gens qui sont contre la grève ont tellement aucun argument, ils sont tellement incapables de mobiliser les gens autrement que sur des pages Facebook comme le mouvement des étudiants socialement responsables ou autres shit du genre, qu'ils s'en sont maintenant avec la voie légale. Donc, à Chicoutimi, entre autres, il y a une étudiante qui a déposé une plainte. Ça a été entendu par le juge qui a donc mis une injonction pour interdire le piquetage au cégep d'Alma. Et par contre, aujourd'hui, levée de cours, les étudiants et les étudiantes ont bravé la loi. Ça va être à suivre. À Montréal, autre requête aussi qui a été faite par un étudiant en droit. Cette fois, comme il avait manqué seulement 2 jours de cours, le juge s'est pas gêné pour lui dire qu'il avait perdu plus de temps à préparer sa cause qu'il a perdu qu'à perdre des cours à cause des méchants grévistes. Mais bon, quand ça s'est arrivé à Montréal, je me disais, bon, on peut encore avoir espoir en la loi, mais bon, ça s'est arrivé à Alma. Laval, une requête du même type qui a été déposée par plus de 60 étudiants. On va avoir le résultat demain à 10 heures. Donc, c'est à suivre, comme quoi même le droit au piquetage n'est clairement pas acquis. Il faut vraiment pas baisser la garde. Mais d'un aspect plus positif, en rafale, à Montréal aujourd'hui, les bureaux du MIES qui ont été peinturés de rouge, c'est absolument magnifique. Donc, c'est l'entrée principale du bâtiment qui abrite la direction régionale du ministère de l'Éducation, du Loisir et des Sports. Je trouve ça tellement absurde que ça soit rendu dans le même ministère. Donc, ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. Hier aussi, beaucoup de cyclistes qui ont pris à Montréal la rue. On se disait 400 ou 4000, c'était plus clair, mais en tout cas, c'était clairement beau à voir. Consultez Facebook ou autres réseaux sociaux pour avoir le nombre exact. Mais c'était absolument magnifique. Aujourd'hui aussi, Profs contre la hausse à Montréal qui ont pris la rue et qui ont vraiment fait une belle action, beaucoup de vidéos qui circulent. Je vous invite à consulter le site web www.profcontrelahausse.org. Et enfin, peut-être parce que j'ai des enfants, mais c'est vraiment, vous l'avez vu, il y a parents contre la hausse, il y a les profs contre la hausse, il y a les infirmiers contre la hausse, il y a les médecins contre la hausse aussi qui font circuler des vidéos. Mais les parents contre la hausse, c'est vraiment, vous irez voir leur site web, tapez parents contre la hausse dans Google, c'est vraiment, c'est ça, c'est un mouvement qui est spontané, hors de toute structure, que je trouve vraiment intéressant. Et aujourd'hui, pour vous montrer que c'est pas parce qu'on est des parents qu'on peut pas être radical, ils ont interrompu les activités des ministres Bolduc et Bachand pour dire non à la marchandisation des services publics. Donc, il y avait en matinée la présentation de ces deux ministres-là à l'hôpital Sainte-Marie et les parents contre la hausse sont entrés avec leur bannière et ont interpellé les ministres pour dire on est là pour nos enfants, pour les générations futures, pour la gratuité scolaire, contre la tarification. Donc, tous ces mouvements-là, vraiment, c'est un peu ce que je disais par rapport à la lutte de Rio Tinto. Je vois vraiment un élargissement, puis je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça sent un petit peu, quand même, on s'en fera pas croire, mais ça sent un petit peu la mai 68, quand même, dans les liens, les contacts qui se font avec les gens. Donc, continuez à en prendre la rue, puis on continue à vous en faire part à Ainsi Squat-t-elle, très certainement.
Yeah. Ouais, que de belles actions qui luttent à tous les moments contre les accusations de corporatisme. Mmh. Moi, je suis épatée chaque jour.
Moi, je suis vraiment ébahie par la créativité des actions. D'ailleurs, dernier petit truc que je peux dire rapidement, c'est à Montréal aussi que ça s'est passé. Des gens qui ont pris la chanson de Yann Perrault, Entendez-vous le bruit des bottes, et en plein centre d'achat, qui n'ont pas fait un sit-in, mais carrément une danse avec les carrés rouges portant fièrement le carré rouge pour sensibiliser les gens. Donc, les gens font vraiment preuve de créativité.
Et que dire de la manif de droite d'hier? Quel beau poisson d'avril! Moi, je la trouve vraiment drôle. On écoute un peu de musique avant le calendrier militant, peut-être.
Ouais. On écoute Neka Heartbeat. Not away. You throw stones. Can you see that I am?
les ondes de CKIA FM, vous écoutez toujours Ainsi squat-elle. Alors, on est déjà rendu au calendrier militant et on reste dans le thème de la dernière chronique. On reste dans les questions étudiantes. Donc, juste à titre de rappel, puisque je suis certaine que vous le savez déjà, mais il y a encore une autre manifestation qui s'inscrit dans un mouvement étudiant. Vous en avez peut-être entendu parler dans les dernières semaines. Donc, le 4 avril, cette semaine, bon, ces temps-ci, c'est pas les manifs qui manquent. Il y en a pratiquement tous les jours quand on cherche bien, mais il y en a une qui semblerait assez grosse qui s'annonce pour mercredi prochain. Le 4 avril, à partir de 13h, le rendez-vous est aux Plaines, pas le rendez-vous, le point de rendez-vous le plus précis au monde. Il y a une adresse là du 835 Wilfrid Laurier, mais c'est marqué à plusieurs endroits là que l'endroit exact reste à déterminer. Mais donc, c'est une manif. Il va y en avoir d'autres à Sherbrooke et à Montréal et probablement dans d'autres villes. On continue à marcher contre la hausse. Et puis, le soir même, pour rester dans le thème, dans le cadre des mercredis agités, pardon, pas le soir même, le mercredi suivant, 11 avril, il va y avoir une présentation, un panel sur l'éducation libertaire qui va avoir lieu à l'agité. Donc, ça, il y a plusieurs invités qui vont venir nous parler de leur conception de ce que ça peut être l'éducation libertaire. Ça devrait être fort intéressant. C'est un débat qui est présenté, ou un panel plutôt, qui est présenté par le collectif anarchiste Atelier. Et puis, ça, c'est dans le cadre de la programmation des mercredis agités qui ont lieu au Bar Coop l'Agité, le 255 Dorchester à Québec. Et puis, l'activité suivante qui est prévue, ça va être le 20, donc c'est tous les deux semaines. Et puis, c'est sur la conjoncture sociopolitique actuelle. Voilà pour le calendrier.
Merci pour ces activités. Puis on vous rappelle que si vous aimez CKIA, si vous aimez l'émission les émissions que vous entendez, on vous invite fortement à devenir membre en allant sur le site internet ckiafm.org dans la rubrique Devenez membre. Donc pour $20, vous pouvez devenir membre et vraiment contribuer à ce que la station perdure. Voilà, donc on vous invite à ça et puis continuez à écouter. C'est Kaya, continuez à écouter Ainsi squat-elle. On vous laisse en musique avec Neka sur une petite fin. Et bonne fin de soirée.
Naja, in the loud arousal of my world, there's a secret place where I find myself. Can I find you, Biafra? The noise of horns of thirsty Nigerians, of hustlers, of mothers confront me as I walk past Lagos. In prayer contemplation like a ghost, I feel the sorrow of a many. Still I don't know how much pain it takes, Naja. I walk the island, I walk the mainland. I see diversity, I smell capacity, but still we suffer. Why? Generators with me from myself, pity no time to waste. Like Okada, reality hits Niger. For too long, we've surrendered to the ignorance of our self-defense. In you, we are filled America. How far must we walk in calamity, in suppression? How long would it take for you to love Niger? As I sit here, I want to live the decision.